autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette saison de rediffusion estivale. Nous vous proposons de commencer par changer totalement de perspective, en nous inspirant d'une autre manière radicalement différente d'être au monde, en nous demandant comment vivent les arbres, les plantes, les fleurs. Pourquoi ce règne végétal, longtemps méprisé, se révèle-t-il à nous aujourd'hui comme une source d'inspiration essentielle ? Qu'est-ce que les plantes, dont on ne cesse de découvrir les étonnantes capacités d'adaptation, de communication, qu'est-ce que les plantes ont à nous dire ? Et pourquoi ça change tout ? Question ouverte par notre invité, le philosophe Emmanuel Coccia, dans un essai détonnant, La vie des plantes, une métaphysique du mélange, paru en février 2017. Nous vous proposons de réécouter cet entretien botanique, bucolique et philosophique autour de la question « Pourquoi s'inspirer de la vie des plantes ?» Bienvenue. Bonjour Emmanuel Coccia.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'EHESS, après avoir enseigné à l'université de Fribourg en Allemagne et à la Columbia University de New York, auteur entre autres de La vie sensible. Vous êtes Emmanuel Coccia, un formidable empêcheur de penser en rond qui nous incite à décentrer notre regard pour nous intéresser à la vie des plantes, une métaphysique du mélange. C'est le titre de votre dernier essai, remarqué, paru aux éditions Rivage Payot. La vie des plantes, ça intéresse en général assez peu les philosophes, peut-être parce qu'ils n'ont pas, comme vous, passé leur adolescence dans les livres de botanique. Pourquoi est-ce que les plantes inspirent tant le philosophe que vous êtes, Emmanuelé ?
Mais tout d'abord, il y a une raison biographique, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, je passais mon adolescence parmi des livres de botanique ou de chimie agraire, mais pour des raisons profanes, c'est-à-dire au lieu de faire comme tout le monde faisait à mon âge, lycée classique, de recevoir une formation humaniste, j'étais envoyé dans un lycée agricole et j'ai donc étudié pendant des années... La vie des plantes, au fond, dans tous ces aspects, leur maladie, leur croissance, leurs besoins, etc. Ça m'a sûrement donné un regard différent par rapport au monde en général, et pas juste à ce que je
ça a marqué dire. Même votre esprit.
Absolument, parce que de toute manière, les plantes sont des êtres... au fond, parmi les vivants les plus éloignés, les plus différentes de nous, ils sont pas censés sentir, avoir une vie spirituelle, c'est ce qu'on dit, et ils parlent pas, ils réagissent pas, et ils sont comme enfermés, blindés dans leurs secrets. Ils sont assez mystérieux d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on sait toujours qu'ils seront à l'origine de notre vie de plusieurs
points de vue. Oui, c'est à l'origine de tout. Enfin, sans les plantes, nous ne serions pas sur Terre. Pas de vie, pas d'atmosphère.
Tout d'abord, il y a sur l'échelle planétaire, ce sont les plantes qui ont colonisé la Terre ferme il y a beaucoup de temps et qui ont transformé l'atmosphère terrestre. Ils ont permis à l'atmosphère d'accumuler de grandes quantités d'oxygène. Et donc, ils ont rendu possible la vie animale sur Terre. Donc, il y a une espèce ils ont des êtres cosmogoniques. C'est à elles qu'on doit notre existence. Et pas seulement dans un temps immémorial, éloigné. Aujourd'hui, en fond, à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour respirer, nous alimentons, de leurs déchets, de leurs détritus, d'un sous-produit de leur métabolisme.
Donc. Voilà de quoi inspirer le philosophe que vous êtes. Autour de la question pourquoi et comment s'inspirer de la vie des plantes, je vous propose, Emmanuel Coccia, de commencer par quelques sources d'inspiration et de réflexion sonore avec le mix forcément végétal d'Apolline Verlan-Raison.
Pour comprendre l'homme, pour se comprendre soi-même, là nous sommes en train de parler, nous avons besoin de penser aux plantes. Qu'est-ce qu'elles nous rappellent, qu'on oublie sans elles ?
J'essaie de comprendre la relation profonde que ces gens ont avec la forêt. Nathiri parle d'un réseau d'énergie qui circule dans toutes les choses vivantes.
Cette impression que vous êtes dans quelque chose qui vous déborde, qui n'est pas à votre échelle, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vieux, c'est une autre réalité à laquelle vous avez accès.
Elle dit que toute cette énergie n'est que prêtée. et qu'un jour, il faut la rendre.
Les Asiatiques en général, d'ailleurs, ont une réelle curiosité pour les plantes, les animaux, pour tout le vivant qui les entoure. Plus spécialement encore au Japon, où le sentiment d'appartenance à la nature est très fort.
Quand on regarde un arbre, c'est plein de gracilité, ça évoque des volutes de fumée, des chemins de vapeur. On peut le pressentir qu'il y a quelque chose de très aérien dans l'arbre lorsqu'on le regarde.
Ses feuilles sont couvertes de tentacules, portant à leur extrémité ce qui ressemble à des gouttelettes de rosée.
Est-ce que les plantes ne nous ressemblent pas un peu? C'est aussi une forme de question très existentielle.
Il semble que les plantes aient même des capacités d'apprentissage.
Les plantes ne sont pas des potiches.
Une sorte d'intelligence, entre guillemets, des plantes collectivement, et une sorte d'immunité des plantes qui se défendent contre les attaquants collectivement, en émettant des messages par l'air qui les entoure, par le vent.
Emmanuel Ecotia, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, ces formes de vie si particulières?
Oui, c'était un mix exceptionnel. Il y a plein d'idées, des concepts qui ont été nommés. Tout d'abord, l'idée très belle de le fait que rentrer dans une forêt, c'est avoir accès à une espèce d'énergie différente, supérieure, etc. C'est vrai au sens littéral du terme. On oublie souvent que les plantes, ce sont les êtres qui, en fond, ce sont les seuls êtres vivants capables de capturer, au fond, la source d'énergie la plus importante sur cette planète, c'est-à-dire les soleils. Leur vie n'est rien d'autre que cette incroyable formule ou capacité de traduire l'énergie solaire en biomasse, en corps. C'est leur travail quotidien d'utiliser l'eau, le dioxyde de carbone et surtout l'énergie, de transformer cela, un corps vivant, en fait.
Et en cela, le règne végétal est très différent du règne animal. Hein. On a souvent snobé le règne végétal, mais pourtant, le règne végétal, les plantes, elles n'ont pas besoin d'autres pour vivre, elles n'ont pas besoin d'autres vivants,
absolument,
alors que dans tout le règne animal, on se nourrit de l'autre,
absolument,
tout le temps.
Hein. Cette capacité, cette connexion immédiate au soleil, l'énergie céleste, spatiale, leur permet d'être indépendants par rapport aux êtres vivants. Alors, et on dit un botanique ou un biologique, ils sont des êtres autotrophes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir d'autres êtres vivants, alors que tout autre être vivant des natures animales se nourrit d'autres êtres vivants. Au fond, nous vivons de la vie des autres, et les plantes sont les seuls êtres au monde qui ne vivent pas de la vie des autres.
Et les seuls êtres au monde qui produisent, en plus.
Ouais.
Ils produisent leur monde.
Ouais.
Enfin, il y a quelque chose là qui a de quoi faire réfléchir, effectivement.
Absolument. Et de ce point de vue aussi, l'autre idée formidable de ce mix que vous avez lancé était cette idée, effectivement, que chacun de nous a, ou cette expérience qu'il y a eu à chaque fois qu'on rentre dans une forêt, de rentrer dans un monde vivant supérieur à nous. Et en fait, ce que vous venez de dire à propos des plantes, c'est que la vie des plantes est intéressante parce qu'elle nous montre que l'espace, les mondes, un environnement, ce n'est pas quelque chose de donné préalablement et qui existe. C'est toujours la production d'un être vivant ou d'un ensemble d'êtres vivants. En fait, la planète elle-même, c'est ça que les plantes nous rappellent, est rien d'autre que le produit de la vie des plantes, c'est-à-dire à chaque portion de notre espace, de notre monde, n'a rien d'autre que les souffles d'un autre être vivant. Et habiter l'espace signifie à la fois habiter ce souffle, habiter cet autre être vivant, c'est être immergé dans la vie de l'autre.
Et le souffle, l'air, encore là, encore une fois, c'est grâce aux, c'est aux plantes qu'on le doit.
Voilà,
hein.
Exactement. Donc déjà, même pas dans la structure matérielle. Évidemment, c'est déjà dans la structure matérielle parce que ce sont les plantes donc, qui ont lancé qui ont inventé la manière de traduire l'énergie solaire en structure carbonique. Donc, ils ont produit et ils continuent à produire la plus vaste masse de matière vivante sur Terre, mais aussi dans l'air que nous respirons, dans l'air dans laquelle nous baignons.
Vous dites la Terre leur doit l'atmosphère et nous leur devons la vie,
oui,
carrément.
Tout à fait. Et, une dépendance qui n'est pas d'ordre historique, c'est vraiment une dépendance d'ordre physiologique perpétuel. À chaque fois qu'on souffle, qu'on respire, On pourrait dire merci aux plantes, on s'immerge dans les corps aériens des plantes, au fond, d'une certaine manière.
Donc, il n'y a pas beaucoup de séparation. Enfin, il y a moins de séparation qu'on ne le dit.
Aucune séparation, en fait. De fait, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de sortir de nos villes, d'aller dans les jardins, dans les forêts, pour avoir un rapport aux plantes. On vit de leur vie à chaque fois qu'on respire, même si on est enfermé dans le chez soi, les yeux fermés. On n'est fait que, voilà, vivre de leur corps, vivre de leur vie.
Autour de la question pourquoi et comment s'inspirer de la vie des plantes sur RFI, à l'écoute de l'album Végétal d'Émilie Simon, Sweet Blossom. Sur RFI, Sweet Blossom, extrait de son album Végétal. Autour de la question, pourquoi s'inspirer de la vie des plantes, comme nous y incite notre invité, le philosophe Emmanuel Ecoccia, mais aussi l'écologue Jacques Tassin, dans son dernier ouvrage « À quoi pensent les plantes ?» Écoutez son éclairage, Emmanuel Ecoccia.
Les plantes n'ont pas d'idées arrêtées, disait Théophraste, un contemporain d'Aristote, et qui avait cette vision un peu qu'ont les poètes, qui lui a permis finalement d'être assez en avance par rapport à d'autres et d'avoir une vision assez juste des plantes. C'était bien dit, parce qu'effectivement, elles ont une croissance, alors les arbres ont une croissance indéfinie, du fait de leur méristème, qui sont des sortes de cellules embryonnaires qui se renouvellent, sortes de fontaines de jouvence. Elles sont capables de prendre les formes, finalement, qui correspondent le mieux à leur environnement, ce qui n'est évidemment pas notre cas. Nous, c'est déterminé dès la fécondation.
Elles sont plus libres que nous, les plantes.
Elles sont plus libres que nous. Alors, c'est là où c'est plein de paradoxes, finalement, l'être végétal. Parce qu'on peut la croire étant ancrée au sol, étant fixe.
Immobile, passive.
Immobile et, en fait, et passive, ce qui n'est pas du tout la réalité. Elles sont plus libres parce que, finalement, elles font leur cheminement de manière plus abouties que le nôtre, et puis elles sont capables, là où elles sont limitées, finalement, de faire appel à d'autres êtres vivants pour obtenir ce qui leur manque.
Plus libres que nous, les plantes, sans idées arrêtées, en croissance quasi infinie, ça inspire quoi au philosophe que vous êtes, ces propos de Jacques Tassin ?
Tout d'abord, il y a une longue tradition philosophique en fait, qui a réfléchi autour de ces questions depuis l'Antiquité. Justement, Jacques Tassin citait Théophraste, mais l'idée de la plante comme paradigme de la liberté, d'une liberté plus forte, plus radicale de celle humaine, a été très importante, par exemple, dans toute la philosophie et la médecine de la Renaissance, qui voulait penser voilà, la matière comme quelque chose de vivant au sens fort du terme. Mais ce sont des idées qu'on a oubliées voilà, dans les derniers 2-3 siècles. Et sinon, en effet, ce que Théophraste disait, que Jacques Tassin répétait, incitant justement les méristèmes, c'est un des faits les plus incroyables de la vie végétale, c'est-à-dire la capacité à la fois de produire de l'indéterminé d'un point de vue cellulaire, c'est-à-dire de garder une espèce de strates des cellules souches qui peuvent aller dans une direction ou de l'autre, donc peuvent produire des fleurs, des feuilles en fonction des besoins et de la situation de l'environnement.
Une adaptation, voilà, adaptabilité absolue.
Mais qui est une adaptabilité non pas spirituelle comme dans les cas des larmes, une adaptabilité somatique, anatomique, donc de changer leur corps. De sculpter leur corps en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est une invention des formes perpétuelles et aussi une attention au monde qui est beaucoup plus radicale de celle qu'on peut supposer dans un homme, qui est évidemment une capacité d'adaptation, mais qui n'arrive pas à modifier son propre corps à la situation du monde ambiant. Alors que dans les cas de plantes, c'est le cas. Aussi parce que, comme Jacques Tassin le disait, ce sont des êtres qui ne cessent jamais de s'accroître. En fait, tout être animal, à un moment...
Arrête de grandir, hein.
A atteint sa maturité, disons, et donc commence à se reproduire. Dans les cas de plantes, il n'y a pas de distinction entre reproduction et croissance, ce qui donc donne une vie qui est perpétuellement dans le façonnage de soi, de fait. Une plante, c'est une vie qui est constamment en train de façonner son propre corps. C'est une vie qui est entièrement le design de soi-même, en fait. Et c'est par exemple, pour être un peu plus précis, être une plante signifie, par exemple, tout animal possède, en fait, ses organes, par exemple, reproductifs. La plante, pour se reproduire, doit tout d'abord bâtir, construire un organe sexuel, c'est-à-dire les fleurs. On oublie toujours que voilà, les fleurs sont des
c'est
organes
sexuels. C'est l'organe sexuel de la plante.
Et pour arriver à la reproduction. Donc, c'est cette liberté, cette ouverture, c'est cette capacité de bricoler à chaque fois sa propre forme somatique, de la changer en fonction voilà, de ce qui se passe autour d'elle. Donc,
Et pour le philosophe que vous êtes, il y a une partie, on a parlé de la fleur, on a parlé des arbres, il y a les feuilles, hein. Vous bâtissez une théorie des feuilles. Les feuilles sont souvent oubliées, négligées, on n'a pas l'impression que c'est le plus... Pour vous, c'est quoi, presque le plus important ou le plus emblématique?
Tout d'abord, il y a toute une longue tradition philosophique ou de pensée qui a reconnu la valeur de la feuille. Il y a le cas exemplaire de Goethe qui avait bâti toute sa théorie de la métamorphose de plantes et en général toute sa théorie du vivant autour de la feuille. Mais de fait, même d'un point de vue botanique, la plante est la feuille, car l'idée plante, comme il y a la catégorie plante est une catégorie très vaste, vague, etc. Mais de fait, plante est tout organisme capable de photosynthèse, c'est-à-dire cette capacité de produire de l'énergie à partir du dioxyde de carbone et de la lumière. Et le laboratoire où il se passe ce processus, c'est la feuille, en fait. Et donc, toute l'existence végétale tourne autour de cet étrange organe qui n'en a pas un, et qui est l'organe à la fois d'exposition intégrale au monde, car la feuille doit capter, voilà, à la fois la lumière, l'air, etc., et de l'élaboration, de production ou des transformations de l'énergie solaire en énergie chimique.
Il y a encore interne et externe, enfin, il n'y a pas tellement d'interne et d'externe
seuil,
non plus. Hein.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi par rapport, si on compare encore une fois plantes et animaux, ce que les animaux ont un corps qui a la tendance à produire des espaces intérieurs. Au fond, toute notre vie se passe dans un espace
à l'intérieur,
de nous. Alors que la plante, en fait, produit surtout des surfaces. C'est une vie qui doit produire, transformer son corps en surface.
Comment nous transformer nous aussi en surface, comme en profondeur, en nous inspirant de la vie des plantes? Piste de réponse au cœur de la forêt avec Benabar sur RFI.
89 FM.
Je faisais ce rêve enfant. Je m'éloignais de la clairière pour pénétrer ce bois devant. Plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Je m'égarais seul dans le noir, m'enfonçant, je devinais. Le rêve avait viré cochon.
suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Dans cette forêt, il y a des gens qui progressent comme moi difficilement. Dans ce tricot de branches savantes, de ronces, de racines rampantes, si menaçante, si menaçante. Dans ce cauchemar d'enfance, le lierre retenait mes cris. Je tremblais de peur, sans défense, blotti, grelottant pour la nuit. Parmi ce peuple indifférent d'arbres, de feuilles, devant, j'avais perdu ma propre trace. Depuis je sais que quoi que je fasse, dans cette forêt j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale.
Dans la forêt de Benabar, sur RFI, en compagnie du philosophe Emmanuel Coccia, autour de la question « Pourquoi et comment s'inspirer de la vie des plantes ?», nous poursuivons notre réflexion auprès des arbres, source d'inspiration pour un autre grand humaniste, l'astrophysicien Hubert Reeves, qui nous initie au bain d'arbres.
J'ai vécu au Canada toute mon enfance, et donc je me suis beaucoup promené dans les forêts. C'est toujours été mon grand plaisir. Donc j'ai développé beaucoup de plaisir à marcher dans la forêt. Ce qui, j'ai appris en japonais, a un nom. Et ce nom, je ne me souviens pas du nom en japonais, mais je me souviens de sa traduction, ça s'appelle « prendre des bains d'arbres ». Ça veut dire aller s'immerger dans la forêt, seul, avec seulement des arbres, et sentir leur présence. On la sent, on ne sait pas très bien comment, mais on la sent. Ça se sent, on sent qu'il y a un rapport avec les arbres. Les arbres, ils sont présents, vous pouvez continuer à rêver, à réfléchir, vous sentez qu'ils vous accompagnent. C'est comme prendre contact avec une autre espèce de vie, totalement différente de la nôtre, mais c'est quelque chose qui quand même nous parle, nous dit quelque chose.
Que nous disent les arbres ou les plantes, Emmanuel Coccia?
C'était très beau ce qu'il disait Hubert Reeves, et je dirais qu'il faudrait même radicaliser ce propos de vouloir sentir les présences des arbres et arriver jusqu'à à les sentir même en ville, même chez soi, c'est-à-dire à réfléchir ou à réaliser que, comme on a dit, à chaque fois qu'on souffle, qu'on ouvre la bouche pour... injecter de l'air, en fait.
C'est grâce aux plantes.
C'est grâce aux plantes et grâce aux arbres. Donc,
C'est quand même. C'est le vivant le plus nombreux sur Terre,
tout à fait,
le végétal.
Tout à fait, ça représente, selon des calculs différents, autour de 90% de la masse vivante, de la matière vivante, comme disait Vernadsky. Donc, c'est elle qui produit, de fait, les éléments
desquels tout autre animal s'est nourri, en fait.
C'est le vivant autre, qui a longtemps été, ou souvent été méprisé, négligé par les philosophes. On essaye de penser le monde et le vivant en laissant finalement de côté 90% de ce vivant.
Oui, il y a de différentes raisons. Tout d'abord, une raison psychologique, c'est-à-dire, de fait, c'est beaucoup plus facile de s'identifier avec un animal qu'avec une plante. Et même avec, même après avoir reconnu que l'homme est un être vivant comme tous les autres après Darwin, on a un cœur du mal à inclure dans ces êtres vivants les plantes pour cette raison. Bêtement de narcissisme, de psychologisme. De l'autre côté, il faut dire, et c'est la chose qui répète souvent les botanistes, que la science biologique est une science construite sur des concepts animaliers, en fait, tirés de l'existence ou de l'étude des animaux. Donc, on a aussi une difficulté scientifique à faire des...
Observer ce vivant pour ce qu'il est, les plantes pour ce qu'elles sont.
Qui a une forme de vie très différente de celle animale, de tout point de vue. Et ensuite, d'un point de vue plus bêtement philosophique, en fait, c'est un oubli, si on se penche sur l'histoire de la philosophie, qui est relativement récente, c'est-à-dire pendant des siècles, la plante, par exemple, a été le paradigme pour penser ce qu'on appellerait aujourd'hui la raison, la rationalité. C'est-à-dire, depuis l'Antiquité, il y a toute une ligne de pensée qui part des stoïciens et qui explose, par exemple, à la Renaissance, qui avait cette idée extraordinaire. C'est-à-dire, la raison, ce n'est pas juste l'autoconscience, c'est la capacité de façonner les mondes, de façonner la matière. Au fond, l'exemple paradigmatique du comportement rationnel, c'est l'artisan qui arrive à donner une forme rationnelle au monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus rationnel? Où est-ce qu'on peut trouver cette forme dans son état les plus purs? Eh bien, dans la sémence. La graine, de fait, si on y réfléchit, c'est un bout de matière capable de produire de formes extraordinaires.
Faire émerger la vie, toutes les vies à partir
de rien, en fait. Donc, c'est cette capacité plastique de façonnage de soi et du monde qui semblerait être presque miraculeuse, magique. Et il y a toute une tradition qui a identifié donc raison et sémence. L'idée, c'était en grec, on disait logos spermatikos, c'est-à-dire l'idée vraiment, la raison n'a rien d'autre qu'une sémence. Et la sémence est l'existence paradigmatique de ce qu'on appelle, même dans l'homme, raison.
Et pourquoi est-ce qu'on a, pas oublié, mais laissé de côté cette réflexion-là?
On l'a oublié surtout parce qu'à partir du 18e, 19e siècle, il y a eu les grands essors de sciences naturelles d'un côté, et surtout il y a eu une séparation qui était tragique entre les soi-disant sciences humaines et sciences naturelles. Séparation d'autant plus absurde que, de l'autre côté, avec Darwin, on avait reconnu le fait que l'homme appartient au monde naturel à plein titre. Mais l'architecture des savoirs et même la manière dans laquelle les savoirs sont transmis, c'est-à-dire l'architecture des universités, est encore aujourd'hui
La botanique ou on apprend la philosophie, mais on fait rarement les deux comme vous.
Exclusion absolue entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature, comme si l'homme n'appartenait pas à la nature et comme si la nature n'était aussi un royaume humain ou spirituel. De fait, comment dire, c'est une blague, mais on pourrait dire que si l'homme est un animal, comme Darwin l'a montré, les sciences humaines sont une partie de la zoologie. Et donc, ce n'est pas ailleurs qu'il faut étudier les sciences humaines. Et de l'autre côté, la zoologie devrait aussi apprendre qu'est-ce que c'est l'esprit, l'existence...
Vous, pour faire de la métaphysique du mélange, c'est du côté du végétal et des plantes que vous y trouvez votre inspiration
Tout à fait, car de fait, comme on a dit, l'existence animale est basée sur l'existence végétale et l'existence végétale aussi m'a paru à moi aussi comme une manière à la fois
proche et très très éloigné de...
Oui, l'autre ouais, par excellence, hein, pour comprendre la vie. Autour de la question pourquoi et comment s'inspirer donc de la vie des plantes, des fleurs, des feuilles, des racines, je propose un nouvel éclairage vu d'ailleurs en terre Lafkenché chez les Mapuches, les communautés aborigènes du Chili et de l'Argentine. Ces peuples de la terre entretiennent un rapport pour le coup intime, spirituel avec les plantes, comme on peut le découvrir dans une exposition consacrée aux Mapuches au Musée de l'Homme à Paris, avec l'ethnobotaniste Flora Pen interrogé par Cerise Maréchaux.
Les plantes sont un élément très important dans l'environnement des Mapuches, puisqu'ils ont une vision de la nature globale, on va dire, avec une continuité entre la terre, les plantes, les hommes, les animaux. Et donc les plantes ne sont pas seulement quelque chose d'utile ou d'esthétique, c'est un être vivant à part entière qui permet de se nourrir, mais aussi de se soigner, mais aussi de rentrer en communication avec... avec la nature, avec les esprits, avec les rêves, etc. Les savoirs autour des plantes vont dépendre du statut de la personne, de sa place dans la communauté, de son âge, de son histoire, de ses préoccupations, de ses envies. Donc les chamans, les machis, ont dans leur parcelle comme un totem qui va leur permettre d'être rentré en contact avec les esprits, qui va leur permettre de soigner les gens, de comprendre les maladies, les maux qu'ont les personnes, dont souffrent les personnes. Et en fonction du chaman, en fonction de ses rêves, en fonction des esprits avec lesquels il est en communication, il va mettre telle ou telle plante à côté de son totem. Il y a certaines plantes qui vont aider les Mapuches à danser autour de ce totem pour certaines cérémonies, l'aide à la transe aussi. Les noms communs, donc il y a le canelo, le maqui, qui est aussi très important pour tout ce qui est les aspects rituels, à faire en infusion, en tisane, à manger, mais aussi par exemple pour se passer sur la peau, ou alors à planter chez soi, ou aussi à respirer.
Vous voulez réagir à cet éclairage de l'ethnobotaniste Flora Pennec, Emanuele Coccia?
Oui, tout à fait. Il y a deux éléments très importants qu'elle a fournis. Tout d'abord, l'idée que les plantes représentent et incarnent la continuité des vivants, c'est ce qu'on a dit. En fait, les plantes sont aussi sur les seuils entre organique et inorganique. Ce sont elles qui transforment la matière non vivante en matière vivante.
Elles sont vivantes, mais elles sont à la lisière, en fait, elles transforment.
Exactement, et ils sont aussi sur la lisière entre ciel et terre, en fait, monde céleste, c'est-à-dire les soleils et monde terrestre. Donc, ils incarnent parfaitement le fait que les vivants n'est pas une agglomération de domaines séparés, mais c'est quelque chose de continu. Qu'il faut l'étudier toujours en ayant dans la tête cette idée de continuité qui est fondamentale, qui rend la vie est possible grâce à cette continuité, grâce au fait qu'il n'y a pas de division entre moi et les bactéries ou moi et les plantes. S'il y avait une division ontologique, la vie ne serait pas possible. Donc ça, c'est une première idée très importante. La deuxième idée, c'est cette idée de savoir sur les plantes qui était présente et importante dans la société traditionnelle. Mais je pense qu'il faudrait là aussi faire un exercice de réaliser à quel point nous avons et nous détenons du fait du savoir immense sur les plantes, mais on ne les reconnaît pas. De fait, chacun a un petit savoir gastronomique sur comment il faut faire les plantes pour être mieux, de savoir presque psychotrope, c'est-à-dire on sait comment faire du café, combien il faut, ou du thé, combien il faut apprendre pour voir les mondes mieux qu'il n'est,
oui. Ouais,
exactement. Et sans parler de savoir du jardinage. En fait, les plantes sont dans notre savoir, c'est plutôt que les savoirs sur les plantes sont relégués un peu dans des endroits marginaux et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, ces savoirs...
Nous irriguent en fait tout le temps. Ouais. C'est comme si, les plantes, évidemment, elles nous parlent, mais elles ne parlent pas, elles n'ont pas de mots, mais c'est comme si nous, au fond, on n'avait pas tellement mis de mots dessus non plus.
Exactement.
C'est ça,
mais de toute manière, là, on est sur une table, cette table provient de plantes, en fait. Donc, on a toute la menuiserie, c'est une science végétale, de fait, ou c'est une science qui porte sur les corps des végétaux. Donc,
et aujourd'hui, on a l'impression que quoi ? Enfin, que certains philosophes comme vous se réemparent de la question, que beaucoup de scientifiques découvrent que les plantes communiquent, que les plantes peuvent apprendre, enfin, un certain nombre de propriétés des plantes, que le temps est venu, quoi, de s'en inspirer aussi, peut-être, pour d'autres formes de développement plus frugales. Y a ça aussi dans l'air, dans notre air produit par ces plantes, justement.
Absolument, il y a tout ce que vous venez de nommer, c'est-à-dire, d'un côté, il y a une
une nouvelle vague et dans les sciences humaines qui commence à s'interroger sur l'existence des plantes. Il y a plein de philosophes aux États-Unis, par exemple Michael Mard, mais il y a aussi plein d'anthropologues, notamment il y a une très grande anthropologue qui s'appelle Natasha Meyers qui est en train de travailler autour de ces questions. Il y a aussi le fait que les scientifiques, notamment les botanistes, ont commencé à mettre ensemble un savoir dont on disposait déjà et réaliser à quel point ces êtres sont importants. Il y a les développements dont vous avez parlé, c'est-à-dire une série de laboratoires en Italie, par exemple, animé par Stefano Mancuso, à Bonn, par Frantis, qui ont repris une idée qui était déjà l'idée de Darwin. Dans l'un des derniers livres de sa vie, en fait, il avait suggéré que les racines, ce sont les cerveaux des plantes. Et il y a toute une nouvelle tendance de ce qu'on appelle neurobiologie végétale qui est en train de se développer, qui est plus ou moins acceptée, discutée, car on objecte en fait le fait que parler des cerveaux, c'est pour les plantes, c'est au fond projeté sur les plantes.
Ce qu'on est, nous.
Oui, ou un concept ou un organe animal. Qui est animal. Mais de fait, on dispose de plus en plus de connaissances sur le fait que c'est dans cette sphère souterraine qu'il se passe pas mal de choses qui sont de l'ordre de la communication, du contact entre l'individu et l'environnement, mais aussi les différents individus à l'intérieur du même environnement. Donc c'est grâce aux racines que les plantes, de fait, deviennent sensibles et se rendent compte de ce qui se passe autour d'elles. En fait. Donc il y a des nouvelles tendances dans la
Donc les racines, ça serait le cerveau des plantes. Absolument, les fleurs, ouais. C'est le sexe des plantes tout qu'elles fabriquent. Ouais. Et puis les feuilles, c'est l'interaction toujours entre ciel et terre.
Exactement. Et à propos de ce que vous disiez sur la frugalité, les nouveaux modes d'être, de fait, ça a été toujours comme ça. On oublie toujours à quel point la révolution agricole chimique des années 50-60, l'invention de fertiliseurs, etc., a révolutionné notre mode d'être. On ne serait pas ici si on n'avait pas inventé, il y a quelques dizaines d'années, en fait, de méthodes pour produire beaucoup plus de ce qu'on produisait avant, donc libérer la plupart de la population qui était quand même employée en agriculture et le rendre possible qu'ils s'occupent d'autre chose. Et évidemment, on a exagéré là-dessus, donc il faut revenir sur d'autres rythmes. Mais de fait, l'histoire du XXe siècle a été aussi l'histoire de la révolution que les plantes ou que notre rapport aux plantes a provoqué sur une échelle beaucoup plus vaste.
Finalement, c'est autour de la question pourquoi les plantes nous inspirent tant sans qu'on se rende vraiment compte, pour penser à un autre monde et un autre rapport au monde. On continue de s'interroger en écoutant un très joli morceau qui vous inspire en ce moment, Emmanuel Ecochia. Ça s'appelle Hero, du groupe californien Family of the Year.
Let me go. Wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So I don't wanna be your hero.
californien Family of the Year sur RFI, morceau choisi par notre invité, le philosophe Emmanuel Ecoccia, autour de la question pourquoi et comment s'inspirer de la vie des plantes et de cette autre manière végétale qui finalement nous inspire tant. Tout de suite, une nouvelle question pour vous, posée par Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences et spécialiste, lui, de la question de l'attention.
En ce moment, on semble assister à une sorte d'accélération de nos modes de vie, une sorte de frénésie. Et ma question, c'est de savoir en quoi le contact avec les plantes peut éventuellement nous ramener une certaine lenteur, justement pour compenser cette espèce de folie d'accélération.
Vous en pensez quoi, Emmanuel Ecoccia?
Je pense que les contacts avec les plantes peuvent nous aider pour à répondre à cette question, pas dans le sens d'opposer l'accélération, lenteur de plantes, mais de penser qu'il y a plusieurs niveaux de temporalité dans lesquels nous vivons à chaque fois, à chaque moment. C'est-à-dire qu'il y a évidemment...
Et la temporalité des plantes n'est pas du tout la même que la nôtre.
Il est sur plusieurs plans. Donc, la plante vit au même temps. De fait, par exemple, la plante, c'est le seul être vivant, ou parmi les seuls êtres vivants, qui vit simultanément dans deux mondes différents. C'est-à-dire, c'est le seul être vivant amphibie, au fond, d'un côté. Parce que, c'est-à-dire, il y a une partie qui est dans l'air, il y a une partie qui est souterraine. Et ça, simultanément, c'est pas comme des êtres qui passent d'un environnement à l'autre. Et on pourrait dire la même chose à propos du temps, c'est-à-dire que les plantes vivent sur des temporalités différentes au même temps. Est-ce qu'on devrait apprendre, c'est-à-dire ne pas juste ralentir, car c'est impossible, mais développer à côté de ce rythme surdéveloppé aussi, un autre espace où le temps est ralenti, qui est l'espace, par exemple, plus proche à ce qui se passe autour de nous et qui répond...
On peut faire les deux en même temps. Enfin, regarder les plantes qui peuvent vivre et à l'air libre et sous terre, et on peut avoir des temporalités différentes, des manières de vivre et d'être différentes en même temps.
Absolument. D'ailleurs, les plantes en hiver nous démontrent ça, c'est-à-dire au fond, ils répondent parfaitement à ce qui se passe autour d'elles, donc ils sont dans cette espèce de mort apparent, mais cette temporalité saisonnière ne nie pas la temporalité, par exemple, séculière des arbres, etc. Donc il y a une double, peut-être triple temporalité qu'il faudrait apprendre à vivre.
Alors jusqu'où les plantes peuvent-elles nous aider à apprendre, à penser les autres aussi et toutes les autres formes de vie possibles ici et ailleurs? C'est tout le sens de la question que vous pose Philippe Hénarejos du mensuel Ciel et Espace.
Les plantes sont une forme de vie assez différente de la faune. N'y aurait-il pas là un terrain d'étude pour essayer d'établir une communication quand on sait qu'on imagine communiquer avec d'autres formes de vie dans l'univers? Là, on a plusieurs formes de vie sur Terre. Déjà, si on a arrivé à établir une forme de communication avec des plantes, serait-ce pas une avancée?
Les plantes, communiquer avec elles pourraient peut-être nous aider à communiquer avec d'autres formes de vie extraterrestres, carrément. Emmanuel Ecoccia.
Tout d'abord, les plantes sont d'une certaine manière aussi de formes de vie extraterrestres, dans le sens qu'elles sont des formes de vie qui vivent de quelque chose qui est à la lettre extraterrestre, c'est-à-dire le soleil. Donc, ce sont au fond les points de passage entre terre et ciel au sens littéral du terme. C'est grâce aux plantes qu'on a un accès, pas juste superficiel, à cette énergie. Au fond, c'est grâce aux plantes.
Qu'on la capte, en fait. Ouais, c'est grâce aux plantes.
Qu'on la stocke, qu'on peut y vivre, etc. Sans ces passages, en fait, on ne pourrait pas vivre, parce qu'on ne peut pas vivre que de la vie sur Terre, en fait. La vie sur Terre est produite, on l'oublie toujours, par cette énorme étoile qui nous accompagne.
Notre soleil.
Et qui définit, au fond, on l'oublie toujours, tout notre vie, en fait. Si on dort ou on ne dort pas, c'est à cause de cette étoile. Donc, et d'une certaine manière, les plantes sont pas à la lettre de formes de vie extraterrestres rattachées sur notre planète.
Et elles nous rappellent à beaucoup de choses, les plantes. Hein. En vous écoutant, je me dis finalement, c'est vrai qu'on oublie, alors peut-être pas de les regarder, mais de les penser. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce qu'elles elles viennent nous dire qu'on est interdépendants, que tout est lié, qu'on peut être plusieurs choses en même temps, qu'on est à la fois lié à l'espace, au ciel, à la terre, sous la terre. Elles sont interconnectées, les plantes aussi.
Tout à fait.
Comme nous.
Ouais, tout à fait. C'est peut-être pour ça, parce que vous dites les plantes nous aident à penser, c'est peut-être pour ça que voilà, les anciens
penser que penser signifie être une plante, tout d'abord, et pas être un homme. En fait, le fait, lorsque je disais la forme paradigmatique de la raison est une graine, de la sémence, au fond, signifie dire penser signifie tout d'abord être une plante et peut-être aussi éventuellement un homme.
Donc c'est pas être végétal ou végétatif, ça ne doit pas être un péjoratif.
Au contraire, c'est un foisonnement de formes, d'inventions, de vie, de souffle. Et c'est surtout, être une plante signifie être végétatif, signifie rendre possible la vie des autres. En fait.
Rendre possible la vie des autres. J'ai envie de terminer sur la fleur. Parce que pour vous, la fleur, alors on l'a dit, c'est le sexe des plantes. C'est la raison aussi, la fleur.
Oui, il y a une très très belle tradition spéculative qui réfléchit sur cette même idée. Au fond, c'est la suite de cette idée que la raison est une graine, car la graine est produite par une fleur, et la beauté de cette idée réside dans le fait que penser la raison en tant que fleur signifie penser la raison en tant qu'organe qui nous permet de produire des formes toujours différentes d'elles-mêmes, et produire des formes à travers la rencontre, parce que la fleur est aussi, en tant qu'organe sexuel, l'organe de la rencontre avec d'autres individus de la même espèce, mais surtout avec d'autres individus d'espèces différentes, car le sexe pour les plantes n'est pas une affaire juste entre deux individus de la même espèce, mais c'est une affaire cosmique. Les plantes impliquent les abeilles, les insectes, les vents. Donc le sexe est un acte qui implique tout le monde et pas juste deux individus de la même espèce. Donc,
là encore, il y a de quoi nous inspirer de belles fleurs, de belles fleurs de pensée. Merci infiniment, Emmanuel Ecoccia, d'être venu en direct pour nous faire réfléchir et penser autrement le monde et le vivant. En regardant, en observant les plantes, la vie des plantes, une métaphysique du mélange, c'est-à-dire absolument aux éditions Rivage Payot. Merci Emmanuel Ecoccia, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup, merci à vous.
Sur internet www.rfi.fr.
Apolline Vernon-Raison, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
Paris 89 FM.
Les voix du monde.